L'imprévu. C'est chose facile que de voir ce qui saute aux yeux, de faire ce qui est prévu. La tendance de la vie individuelle est plutôt statique que dynamique. Cette tendance devient propulsion grâce à la civilisation où on ne voit que ce qui est évident, où l'imprévu arrive rarement. Lorsque l'inattendu arrive cependant, et qu'il amène de graves conséquences, les faibles succombent. Ils ne discernent pas ce qui n'est pas facile à voir. Ils ne peuvent pas agir contre l'inattendu, incapables qu'ils sont d'ajuster leur vie bien réglée dans des ornières nouvelles et étranges. Bref, lorsqu'ils arrivent au bout de leur ornière, ils meurent. D'autre part, il y a des hommes qui s'arrangent à survivre, des individus entraînés qui échappent à la règle de l'évidence et de ce qui est prévu, et qui ajustent leur vie à toutes les règles étranges qu'elles peuvent rencontrer ou auxquelles elles sont forcées de s'assujettir. Edith Whittlesey était de ces individus. Elle était née dans un district rural d'Angleterre où la vie s'écoule, arrangée d'avance, et où l'imprévu est tellement inattendu que lorsqu'il arrive, il est considéré comme quelque chose d'immoral. De bonne heure, elle se mit en service, et tandis qu'elle était jeune encore, par une progression réglée, elle devint femme de chambre d'une dame. L'effet de la civilisation est d'imposer la loi humaine à tout ce qui environne l'homme jusqu'à ce que tout devienne une régularité de machine. On élimine ce qui est contestable. On se prépare à l'inévitable. On n'est même pas mouillé par la pluie ni refroidi par la gelée. Et la mort, au lieu de s'avancer horrible et accidentelle, devient un spectacle arrangé d'avance. Elle se dirige, suivant une ornière bien tracée, vers le caveau de famille dont les gonds sont préservés de rouille et dont la poussière est sans cesse balayée. C'était le milieu dans lequel vivait Edith Whittlesey. Rien n'arrivait. C'est à peine si on peut dire qu'il arrivait à quelque chose, lorsqu'à l'âge de 25 ans, elle accompagna sa maîtresse aux États-Unis. L'ornière changea simplement de direction. C'était la même ornière bien tracée. C'était un chemin qui traversait l'Atlantique sans incident. Le bateau n'était pas un bateau en pleine mer, mais un grand hôtel à main corridor qui s'avançait, vite et placide, écrasant les vagues et les subjuguant de sa masse colossale, à ce point que la mer n'était qu'un étang, monotone et calme. De l'autre côté, l'ornière continuait sur terre. Une route bien tracée, respectable et qui offrait des hôtels partout où l'on s'arrêtait et des hôtels sur roues entre les points d'arrêt. À Chicago, tandis que sa maîtresse voyait un côté de la vie sociale, Edith Whittlesey vit l'autre côté. Et lorsqu'elle quitta le service de la dame et devint Edith Nelson, elle découvrit peut-être faiblement qu'elle avait le pouvoir de lutter avec l'imprévu et de le vaincre. Hans Nelson, émigrant, suédois de naissance et charpentier de profession, avait en lui cette turbulence des teutons qui chasse toujours la race vers l'ouest en quête d'aventure. C'était un homme lourd et bien musclé, de peu d'imagination et de grande initiative. Il possédait en lui une loyauté et une affection aussi solides que lui-même. « Quand j'aurai travaillé dur et que je me serai mis de l'argent de côté, j'irai au Colorado », avait-il dit à Edith le lendemain de leur mariage. Un an plus tard, ils étaient au Colorado. Hans Nelson vit pour la première fois la vie de mineur et où il prit lui-même la fièvre de l'or. Il prospecta en Dakota, Idaho et Oregon oriental, puis jusque dans les montagnes de la Colombie-Britannique. Au campement ou sur la route, Edith Nelson était toujours avec lui, partageant sa chance, ses fatigues et son travail. Elle échangea le pas court de la femme élevée dans une maison pour le pas allongé du montagnard. Elle apprit à regarder le danger d'un œil limpide et avec compréhension, perdant pour toujours cette terreur panique, faite d'ignorance qui afflige les citadins et qui les rend stupides comme de stupides chevaux, qui fait qu'ils attendent leur sort glacé d'épouvante au lieu de lutter contre lui, ou qu'ils fuient dans une terreur aveugle qui les fait se détruire eux-mêmes tandis que la route est bloquée par leur corps. Edith Nelson rencontra l'imprévu à chaque tournant du chemin, et elle habitua ses yeux à voir dans le paysage non ce qui était évident, mais ce qui était caché. Elle, qui de sa vie n'avait jamais fait la cuisine, elle apprit à faire le pain sans céder de houblon, de levure ni de soude, et à le cuire dessus et dessous dans une poêle à frire sur un feu ouvert. Et lorsque la dernière tasse de farine avait disparu, lorsque le dernier morceau de lard avait été mangé, elle savait se mettre à hauteur des circonstances et faire un repas de mocassins ou de morceaux de cuir mou qui, en quelque sorte, chevillait l'âme au corps et lui permettait de se traîner un peu plus loin. Elle apprit à battre un cheval et à le faire aussi bien qu'un homme, tâche qui brise le cœur et l'orgueil de tout citadin, et elle savait le nœud spécial qu'il fallait faire suivant les charges. Elle savait aussi faire un feu de bois mouillé sous une pluie battante sans perdre sa bonne humeur. Bref, sous toutes les formes, elle sut mater l'imprévu. Mais le grand imprévu avait encore à survenir dans sa vie et à la mettre à l'épreuve. La marée des chercheurs d'or montait vers le nord, en Alaska. Et il était inévitable que Hans Nelson et sa femme ne fussent pris par le flux et entraînés vers le Klondike. L'automne de 1897 les trouva à Dyea, mais sans argent pour transporter leur équipement à travers la passe de Chilkoot et l'embarquer jusqu'à Dawson. C'est pourquoi Hans Nelson travailla cet hiver-là de son métier et aida à bâtir la ville champignon de Skagit. Il était sur le seuil, incertain, et durant tout l'hiver, il entendit l'Alaska l'appeler. La baie de Latuya l'appela plus fort que le reste, et l'été de 1898 le trouva lui et sa femme dans le dédale de la côte déchiquetée, à bord de canots Siwash de 70 pieds. Avec eux, il y avait des Indiens et trois hommes blancs. Les Indiens les débarquèrent, eux et leurs bagages, d'une anse solitaire, à environ 100 milles au nord de Latuya Bay, et s'en retournèrent à Skagit. Les trois hommes restèrent, car ils étaient membres de l'expédition organisée. Chacun avait mis une part égale pour fournir l'équipement. Les profits devaient être partagés également. Eddie Nelson avait entrepris de faire la cuisine pour l'expédition et devait recevoir la part d'un homme. Tout d'abord, on coupa des sapins et on construisit une cabine de trois chambres. C'était la tâche d'Eddie Nelson de garder cette cabine. Les hommes, eux, avaient à chercher de l'or, ce qu'ils firent, et à en trouver, ce qu'ils firent aussi. Ce ne fut point une trouvaille étonnante, tout simplement un placet de bas rendement où les longues heures de dur travail rapportaient à chaque homme entre 15 et 20 dollars par jour. L'été court d'Alaska dura plus que d'ordinaire. Ils en profitèrent et remirent leur retour à Skagit jusqu'au dernier moment. Puis, ce fut trop tard. On avait fait des arrangements pour accompagner plusieurs douzaines d'Indiens du district de leur voyage d'automne le long de la côte. Les Siwash avaient attendu les Blancs jusqu'à la 11e heure, puis étaient partis. Il ne restait à l'expédition que d'attendre une occasion. Pendant ce temps-là, on avait lavé l'or et on avait fait provision de bois de chauffage. L'été indien s'était attardé, puis tout à coup, avec une soudaineté d'éclat de trompette, l'hiver arriva. Il arriva en une seule nuit, et les mineurs se réveillèrent au vent qui hurlait, fouettant la neige et gelant l'eau. Il y avait tempête sur tempête, et dans l'intervalle, c'était le silence que seul interrompait le grondement des flots sur la côte désolée, où l'écume salée frangeait la plage de blancheur gelée. Dans la cabine, tout alla bien. Leur poudre d'or pesait quelque chose comme 8 000 $, et ils ne pouvaient qu'être satisfaits. Les hommes firent des raquettes pour la neige, chassèrent afin de remplir le garde-manger de viande fraîche, et, durant les longues soirées, jouèrent d'interminables jeux de whist et de pedro. Maintenant que les mines ne marchaient plus, Edith Nelson laissa les hommes préparer le feu et laver la vaisselle, tandis qu'elle raccommodait leurs chaussettes et leurs vêtements. Personne ne se plaignait, ne se disputait ou ne se querellait dans la petite cabine, et ils se félicitaient souvent l'un l'autre du bonheur de toute la bande. Hans Nelson était tranquille et accommodant, tandis qu'Edith avait depuis longtemps gagné sa grande admiration pour savoir si bien s'arranger avec les gens. Arkie, un homme du Texas, long et maigre, avait une amabilité extraordinaire chez quelqu'un d'aussi taciturne qu'il l'était, et tant qu'on ne récusait pas sa théorie que l'or poussait, il était bon compagnon. Le quatrième membre de la bande, Michael Denin, contribuait par son esprit irlandais à la gaieté de la maisonnée. Il était grand, puissant, disposé à de soudains accès de colère à propos de petites choses, et d'une bonne humeur qui ne cessait pas sous le poids ni sous la tension des moments graves. Le cinquième et dernier, Dutchie, était pour la bande une cible de bonne volonté. Il allait jusqu'à faire rire à ses dépens afin de maintenir la gaieté. Son but délibéré dans la vie semblait de faire rire. Aucune querelle sérieuse n'avait encore obscurci la sérénité de la petite famille, et maintenant que chacun pouvait montrer 1 600 $ comme résultat du travail d'un court été, il régnait un esprit de prospérité bien nourri et repu. C'est alors que l'imprévu arriva. Ils venaient se s'asseoir à la table pour les breakfasts. Quoiqu'il fût déjà 8 heures, l'heure du breakfast avait été naturellement retardée depuis que le travail régulier de la mine avait cessé, une bougie dans le col d'une bouteille éclairait le repas. Edith et Hans s'étaient assis à chaque bout. D'un côté, le dos tourné à la porte, Arkie et Dutchie étaient assis. La place de l'autre côté était vacante, Denny n'était pas encore rentré. Hans Nelson regarda la chaise vide, remua doucement la tête et dit, essayant lourdement d'être drôle, « Il est toujours le premier pour la mangeaille, c'est étrange, peut-être est-il malade ?»« Oui, Michael, » demanda Edith. « Il s'est levé un peu plus tôt que nous, » répondit Arkie, et il est sorti. La figure de Dutchie rayonnait malicieusement. Il faisait semblant de savoir la cause de l'absence de Denin et prenait un air mystérieux tandis qu'on l'accablait de questions. Edith, après avoir donné un coup d'œil dans la chambre des hommes, revint à la table. Hans la regarda et elle secoua la tête. Il n'a jamais été en retard pour les repas, remarqua-t-elle. Je n'ai pu pas comprendre, dit Hans. Il a toujours grand appétit comme le cheval. C'est trop fort, dit Dutchy, secouant la tête tristement. On allait plaisanter sur cette absence du camarade. C'est dommage, dit Dutchy. Quoi ? Demanda-t-il en tant qu'heure. Pauvre Michael, répondit-il lugubre. Eh bien quoi ? Qu'est-ce qu'il a, Michael ? Demanda Arki. Il n'a plus faim, dit Dutchy. Il a perdu son appétit. Il n'aime pas la nourriture. On ne le croirait pas à le voir s'y plonger jusqu'aux oreilles, remarqua Arki. Il le fait pour être poli envers Madame Nelson, repartit Dutchy aussitôt. Je sais, c'est trop fort. Pourquoi n'est-il pas ici ? Parce qu'il est sorti. Pourquoi est-il sorti ? Pour développer son appétit. Comment développe-t-il son appétit ? Il marche pieds nus dans la neige. Ah, est-ce que je ne sais pas ? C'est ainsi que les gens riches courent après un appétit lorsqu'il a disparu et qu'il s'enfuit. Michael a 1600 dollars. Il n'a pas d'appétit. Donc, c'est pourquoi il court après l'appétit. Ouvrez seulement la porte et vous le verrez pieds nus dans la neige. Non, vous ne verrez pas l'appétit. Voilà l'ennui. Lorsqu'il aura vu l'appétit, il l'attrapera et viendra pour son breakfast. Ils éclatèrent de rire aux bêtises de Dutchy. Le bruit n'avait pas cessé que la porte s'ouvrit et Denis entra. Tous se retournèrent pour le voir. Il portait un fusil. Tandis qu'il regardait, il l'épaula et tira deux fois. Au premier coup, Dutchy tomba la figure sur la table, renversant sa tasse de café, ses cheveux jaunes dans son assiette de bouillie. Son front appuyé sur le rebord de l'assiette maintint celle-ci contre ses cheveux à un angle de 45 degrés. Arki était en l'air, sautant sur ses pieds au moment du second coup. Il tomba la face sur le plancher, tandis que son « Mon Dieu !» faisait un glouglou et mourait dans sa gorge. C'était l'imprévu. Hans et Edith étaient abasourdis. Ils restaient assis à la table, le corps raidi, les yeux fixes, fascinés par le meurtrier. Ils le virent vaguement au travers de la fumée de la poudre, et dans les silences, on n'entendait que les gouttements du café renversé de Dutchy qui tombait sur le plancher. Denin ouvrit la culasse de son fusil et rejeta les douilles vides. Tenant l'arme de la main droite, il porta la gauche à sa poche pour en tirer d'autres cartouches. Il était en train de les mettre dans la culasse quand Edith Nielsen se réveilla pour l'action. Il était évident qu'il avait l'intention de les tuer, Hans et elle. Pendant l'espace de 3 secondes peut-être, elle avait été aveuglée, paralysée par la forme horrible et inconcevable qu'avait prise l'imprévu. Alors, elle se mit à la hauteur de la situation et se prépara à la lutte. Elle lutta en réalité, bondissant comme un chat sur le meurtrier et saisissant son foulard des deux mains. Le choc de son corps le fit reculer en titubant de plusieurs pas. Il essaya de se débarrasser d'elle et de garder le fusil en main. Cela n'était pas facile, car le corps musclé de la femme était devenu comme celui d'un chat. Elle se jeta d'un côté, et la tenant toujours à la gorge, elle le précipita presque sur le plancher. Il se redressa et tourna rapidement. Elle ne lâcha pas prise. Son corps suivit le cercle de ce tourbillon à ce point que ses pieds quittèrent le plancher. Elle tourna en l'air, ses mains serrant toujours la gorge. Une chaise arrêta le tourbillon. L'homme et la femme tombèrent sur le plancher, luttant follement, et la chute les emporta au milieu de la chambre. Hans Nelson fit une demi-seconde en retard sur sa femme pour se mettre à hauteur de l'imprévu. Le travail de ses nerfs et de son esprit était plus lent. Son organisme n'était pas si délicat, il lui avait fallu une demi-seconde de plus pour percevoir, déterminer et agir. Elle avait déjà sauté sur Denis et l'avait saisi à la gorge lorsque Hans se mit debout. Mais il n'avait pas le calme qu'elle avait. Il était dans une furie aveugle, une rage féroce. Au moment où il se leva de sa chaise, il ouvrit la bouche et en fit sortir un son, moitié rugissement, moitié beuglement. Le tourbillon des deux corps avait déjà commencé que, rugissant et beuglant, il les poursuivit à travers la chambre et les rejoignit lorsqu'ils tombèrent sur le plancher. Hans se jeta sur la matière, le bourrant follement de coups de poing. C'était des coups de marteau de forgeron, et quand Edith sentit que les coups de Denis mollissaient, elle lâcha prise et se dégagea. Elle resta sur le plancher, haletante, et regarda. Les coups furieux continuaient à pleuvoir. Denis ne semblait pas y faire attention, il ne bougeait même pas. Alors, il lui vint à l'idée que l'homme avait perdu connaissance. Elle cria à Hans d'arrêter. Elle cria encore, mais il ne fit pas attention à sa voix. Elle le saisit par le bras, mais c'est à peine si son effort en fut ralenti. Elle n'avait pas raisonné l'impulsion qui la poussait à faire cela. Ce n'était pas le sentiment de la pitié, ni le « tu ne le feras point » de la religion. C'était plutôt un sentiment de la loi, de la morale de sa race, et de ce qu'il avait environné dans sa jeunesse qui l'a poussé à mettre son corps entre son mari et l'assassin sans défense. Ce ne fut que lorsque Hans comprit qu'il frappait sa femme qu'il cessa. Il la laissa le repousser de la manière dont un chien féroce mais obéissant laisse faire son maître. L'analogie allait même plus loin. Au fond de sa gorge, comme chez un animal, la rage de Hans grondait, et plusieurs fois, il fit comme s'il allait se jeter sur sa proie. La femme seule l'en empêcha en s'interposant rapidement. Edith fit reculer son mari de plus en plus. Jamais elle ne l'avait vu dans un pareil état, et elle avait plus peur de lui qu'elle n'avait été effrayée de Denis au plus fort de la lutte. Elle ne pouvait pas croire que cette bête enragée était son Hans, et elle fut empoignée tout à coup par la crainte instinctive qui ne lui brisait la main entre ses dents comme un animal sauvage. Pendant plusieurs secondes, Hans alla de droite et de gauche, ne voulant pas lui faire de mal, mais entêté dans son désir de renouveler l'attaque. Mais elle ne le quitta pas avant que les premières lueurs de raison fussent revenues et qu'il se fût rendu. Tous deux se relevèrent. Hans tituba contre le mur auquel il s'appuya, les traits grimaçants. Dans sa gorge, le grondement dura encore quelques secondes, puis s'éteignit. Le moment de la réaction était venu. Edith, debout au milieu de la chambre, se tordait les mains, haletante et palpitante, le corps tremblant tout entier. Hans ne regardait rien, mais les yeux d'Edith regardaient follement chaque détail de la scène qui venait d'avoir lieu. Daniel était couché, sans mouvement. La chaise renversée dans le tourbillon insensé gisait près de lui. Il était couché sous le fusil dont la culasse était encore ouverte. Les deux cartouches étaient tombées de ses mains. Il n'avait pu les mettre dans le fusil et les avait tenues jusqu'au moment où il avait perdu connaissance. Arquet était étalé, la figure sur le plancher, tel qu'il était tombé, tandis que Dutchy était toujours penché sur la table, son toupet jaune dans sa bouillie, l'assiette toujours maintenue à un angle de 45 degrés. Cette assiette dans cette position l'a fasciné. Pourquoi ne tombait-elle pas? C'était ridicule. Ce n'était pas dans la nature des choses qu'une assiette de bouillie se tint ainsi debout sur une table, même si un homme ou deux avaient été tués. Elle se tourna du côté de Denis, puis ses yeux revinrent sur l'assiette en équilibre. C'était trop ridicule. Elle sentit un besoin hystérique de rire. Alors, elle remarqua le silence et oublia l'assiette dans un désir que quelque chose arrivât. L'égouttement monotone du café sur le plancher ne faisait qu'exagérer le silence. Pourquoi est-ce que Hans ne faisait rien, ne disait rien? Elle le regarda et allait parler, lorsqu'elle s'aperçut que sa langue se refusait à son office accoutumé. Elle sentait dans sa gorge une douleur étrange. Sa bouche était sèche et rugueuse. Tout ce qu'elle pouvait faire était de regarder Hans, qui à son tour la regardait. Tout à coup, le silence fut déchiré par un bruit aigu, métallique. Elle cria, regardant du côté de la table. L'assiette était tombée. Hans soupira comme s'il sortait du sommeil. Le bruit de l'assiette les avait rappelés à la vie, dans un monde nouveau. La cabine contenait ce monde nouveau dans lequel il leur fallait vivre et se mouvoir. L'ancienne cabine avait disparu pour toujours. L'horizon de la vie était tout à fait renouvelé et étranger. L'imprévu avait jeté son sortilège sur la face des choses, changeant la perspective, jouant et jonglant avec la valeur des choses et mêlant la réalité et l'impossible en une confusion embarrassante. « Mon Dieu, Hans !» furent les premiers mots d'Edith. Il ne répondit pas mais la fixa avec horreur. Doucement, ses yeux errèrent par la chambre, pour la première fois, remarquant les détails. Puis, il mit sa casquette et se dirigea vers la porte. « Où allez-vous ? » demanda Edith dans l'angoisse de l'appréhension. Sa main était sur la poignée de la porte. Il se retourna et dit « Creusez les fosses. »« Ne me laissez pas, Hans, avec !» Ses yeux firent le tour de la chambre. « Avec tout cela ?»« Il faut que les fosses soient creusées une fois ou l'autre. » « Mais vous ne savez pas combien ? » objecta-t-elle désespérée. Elle remarqua son indécision et ajouta « D'ailleurs, je vais avec vous pour vous aider. » Hans recula vers la table et machinalement moucha la chandelle. Puis, ensemble, ils firent la revue. Arquet et Dutchy étaient morts tous les deux, terriblement morts à cause du coup tiré à bout portant. Hans refusa d'approcher de Denis et Edith fut forcée de faire l'examen elle-même. « Il n'est pas mort, » dit-elle à Hans. Elle s'approcha et, penchée sur lui, regarda le meurtrier. « Qu'avez-vous dit ? » demanda Edith qui avait entendu un grognement inarticulé dans la gorge de son mari. « J'ai dit que c'était une sacrée honte qu'il ne soit pas mort, » répondit-il. Edith était penchée au-dessus du corps. « Laissez-le tranquille, commanda Hans d'une voix brutale. Elle le regarda, alarmée tout d'un coup. Il avait ramassé le fusil que Denis avait laissé tomber et y mettait les cartouches. « Qu'allez-vous faire ? » cria-t-elle, se levant rapidement. Hans ne répondit pas, mais elle le vit placer le fusil à son épaule. Elle saisit le canon de la main et le tint ainsi en l'air. « Laissez-moi ! » cria-t-il Rock. Il essaya de lui arracher le fusil, mais elle se rapprocha et s'accrocha à lui. « Hans, Hans, réveillez-vous, ne soyez pas fou !»« Il a tué Dutch et Arke, » répondit son mari, « et je vais le tuer. »« Mais c'est mal !» cria-t-elle. « Il y a la loi !» Il ricana pour montrer son peu de foi en la puissance de la loi dans un tel pays. Puis, il répéta simplement, sans passion, entêté, « Il a tué Dutch et Arke. » Pendant longtemps, elle discuta avec lui, mais l'argumentation ne s'exerçait qu'en à côté. Il se contentait de répéter, encore et encore, « Il a tué Dutch et Arke. » Elle ne pouvait pas se soustraire à l'éducation qu'elle avait reçue enfant, ni au sang qui était dans ses veines. L'héritage de la loi lui appartenait, et une conduite droite était pour elle l'accomplissement de la loi. Elle ne voyait pas d'autre route à suivre. En se substituant à la loi, Hans ne pouvait pas se justifier plus que Denine. Deux fautes ne faisaient pas un acte juste, disait-elle. Et il n'y avait qu'une manière de punir Denine, c'était par la loi de la société. Enfin, Hans céda. « Bien, dit-il, faites à votre volonté. Demain ou après, regardez-le nous tuer, vous et moi. » Elle secoua la tête et tendit la main pour avoir le fusil. Il allait le lui passer quand il hésita. « Mieux vaut me laisser le tuer, » implora-t-il. De nouveau, elle secoua la tête. Et une fois encore, il allait à lui passer le fusil lorsque la porte s'ouvrit et un Indien entra sans frapper. Une tourmente de vent et de neige entra avec lui. Ils se retournèrent et lui firent face, Hans tenant encore le fusil. L'intrus embrassa toute la scène sans sourciller. Ses yeux enveloppèrent les morts et le blessé d'un regard circulaire. Aucune surprise sur sa figure, pas même de curiosité. Arke était couché à ses pieds, mais il ne le remarqua pas. Pour ce qui le concernait, le corps de Arke n'existait pas. « Beaucoup de vent, » remarqua l'Indien en manière de salutation. « Tout va bien, très bien ?» Hans, le fusil toujours à la main, ne douta pas que l'Indien ne lui attribuât la mutilation des corps. Il regarda, implorant sa femme. « Bonjour, Negouk, » dit-elle d'une voix qui trahissait un effort. « Non, pas très bien. Beaucoup de chagrin. Adieu, je m'en vais maintenant. Très pressé, » dit l'Indien. Et sans avoir l'air d'être pressé, en enjambant posément la mare rouge qui était sur le plancher, il ouvrit la porte et sortit. L'homme et la femme se regardèrent. « Il croit que c'est nous qui avons fait cela, » haleta Hans, « que c'est moi. » Edith resta silencieuse un moment. Puis elle dit brièvement, aux femmes qui ne perdent pas la tête, « Qu'est-ce que cela fait, ce qu'il pense ? Cela viendra après. Pour l'instant, nous avons deux fosses à creuser, et avant tout, il nous faut lier Denine de manière qu'il ne puisse pas se sauver. » Hans refusa de toucher Denine. Mais Edith le fit cela solidement, mains et pieds. Puis, elle et Hans sortirent dans la neige. Le sol était gelé, résistant aux coups de pioche. Ils commencèrent par ramasser du bois. Ils balayèrent la neige et sur la surface gelée firent un feu. Au bout d'une heure, plusieurs pouces de terre s'étaient dégelés. Ils enlevèrent cela à la pelle et bâtirent un autre feu. Leur descente en terre se faisait à raison de 2 ou 3 pouces par heure. C'était un travail dur et amer. La neige chassée empêchait le feu de bien brûler, tandis que le vent les cinglait à travers le vêtement et glaçait leur corps. Ils parlèrent peu. Le vent les empêchait de s'entendre. Ils se demandaient quel pouvait avoir été le motif de Denine. En dehors de cela, ils restaient silencieux, oppressés par l'horreur de la tragédie. À 1 heure, regardant du côté de la cabine, Hans annonça qu'il avait faim. « Non, pas maintenant, Hans, » répondit Edith. « Je ne pourrai pas retourner seule dans cette cabine dans l'état où elle est et cuire un repas. » À 2 heures, Hans offrit de l'accompagner. Mais elle le maintint à son travail et à 4 heures, les deux fosses étaient creusées. Elles n'étaient pas profondes, pas plus de 2 pieds, mais elles étaient suffisantes. La nuit était venue. Hans prit le traîneau, et les deux morts furent allés, au travers de la tempête et de la nuit, vers leur tombe gelée. La procession funèbre n'avait rien d'imposant. Le traîneau s'enfonçait dans la neige entassée et était lourd à tirer. L'homme et la femme n'avaient rien mangé depuis la veille et étaient faibles de faim et de fatigue. Ils n'avaient pas la force de résister au vent et, de temps à autre, la rafale les renversait. Plusieurs fois, le traîneau chavira et il leur fallut recharger les lugubres fardeaux. Les derniers 100 pieds suivaient une pente raide. Il leur fallut la monter à 4 pattes comme des chiens de traîneau, faisant jambes de leurs bras et enfonçant les mains dans la neige. Malgré cela, ils furent à deux reprises entraînés en arrière par le poids du traîneau. Ils glissèrent et tombèrent au bas de la pente, tous, morts et vivants pêle-mêle, embarrassés dans les bricoles du traîneau. « Demain, je mettrai des croix avec leurs noms, » dit Hans, lorsque les fosses furent comblées. Edith pleurait. Quelques phrases inachevées étaient tout ce qu'elle avait pu prononcer comme service funèbre. Maintenant, son mari était obligé de la porter presque vers la cabine. Denis avait repris connaissance. Il s'était roulé à droite et à gauche sur le plancher et faisait de vains efforts pour se libérer. Il regarda Hans et Edith avec des yeux brillants, mais n'essaya pas de parler. Hans refusait encore de toucher l'assassin et, sombre, il regarda Edith le traîner sur le parquet vers la chambre des hommes. Mais malgré tous ses efforts, elle n'est plus parvenir à le soulever du plancher dans son cadre. « Mieux vaut me laisser le tuer, nous n'aurons plus d'embarras, » demanda Hans une fois encore. Edith secoua la tête et se baissa de nouveau sur sa tâche. Elle fut surprise de sentir le corps s'enlever facilement, et elle comprit que Hans avait cédé et qu'il l'avait aidé. Puis, il fallut nettoyer la cuisine. Mais le plancher criait encore la tragédie jusqu'à ce que Hans eût raboté la surface du bois taché et eût avec les copeaux fait un feu dans le poêle. Les jours vinrent et s'en allèrent. Il y avait beaucoup d'obscurité et de silence qui interrompaient seulement les orages et le tonnerre grondant sur la plage de Ressac gelé. Hans obéissait au moindre ordre d'Edith. Toute sa splendide initiative s'était évanouie. Elle avait choisi d'agir à l'égard de Denine d'une certaine façon. Il laissa tout entre ses mains. Le meurtrier était une menace constante. Il y avait toujours le risque qu'il s'échappât de ses liens, et il leur fallait le veiller nuit et jour. L'homme ou la femme était assis près de lui, tenant le fusil chargé. D'abord, Edith essaya des gardes de 8 heures, mais l'effort était trop grand. Ensuite, elle et Hans se succédèrent toutes les 4 heures. Comme il leur fallait dormir et que les gardes duraient toute la nuit, leur veille était entièrement employée à garder Denine. Il leur restait à peine le temps de préparer les repas et de couper le bois. Depuis la visite faite mal à propos par Negook, les Indiens évitaient la cabine. Edith envoya Hans à leur camp pour les prier d'emmener Denine dans un canot le long de la côte au village blanc le plus proche ou au comptoir de Trader, mais ce fut en vain. Puis, Edith alla elle-même et eut une entrevue avec Negook. Il était chef du petit village. Il voyait clairement sa responsabilité et expliqua clairement et en détail sa règle de conduite. « C'est une affaire d'homme blanc, dit-il, non une affaire Siwash. Mais j'en vous aide, alors cela devient affaire Siwash. Lorsque l'affaire des Blancs se mêle à celle de Siwash, cela devient alors une affaire très grande, qu'on ne peut comprendre et qui n'a pas de fin. Une affaire ne vaut rien. Mes gens ne font pas de mal. Pourquoi vous aideraient-ils et se mettraient-ils dans l'embarras ?» Alors, Edith Nelson revint à la tragique cabine et à ses éternelles veilles alternatives de 4 heures. Parfois, lorsque c'était son tour de garde et qu'elle était assise près du prisonnier, le fusil chargé sur les genoux, ses yeux se fermaient et elle s'endormait. C'était toujours en sursaut qu'elle se réveillait, saisissant le fusil et le regardant. C'était bien des chocs nerveux, et leur effet ne lui valait rien. Elle avait une telle peur de l'homme que, même si elle était éveillée, elle ne pouvait s'empêcher de sursauter ni de saisir le fusil s'il remuait seulement sous ses couvertures. Elle se préparait à une crise de nerfs, et elle le savait. D'abord, c'était ses yeux qui battaient, et elle était obligée de les fermer pour les soulager. Un peu plus tard, les paupières étaient atteintes d'un clignement nerveux qu'elle ne pouvait pas contrôler. Ce qui rendait la tension plus dure à supporter, c'est qu'elle ne pouvait pas oublier la tragédie. Elle restait aussi près de l'horreur que lors du premier matin, lorsque l'imprévu entra dans la cabine et en prit possession. Dans ses rapports quotidiens avec le prisonnier, elle était forcée de grincer des dents et de rester raidie de corps comme d'esprit. Hans était affecté d'une façon différente. Il devint obsédé par l'idée que c'était son devoir de tuer Denine, et chaque fois qu'il veillait l'homme lié ou qu'il était près de lui, Edith craignait que Hans n'ajoutât un meurtre au record de la cabine. Il maudissait toujours Denine avec férocité et le traitait rudement. Il essayait de cacher sa manie homicide et disait à sa femme « Bientôt, vous voudrez que je le tue, alors je refuserai. Cela me rendrait malade. » Mais plus d'une fois, elle se glissa dans la chambre, alors qu'elle n'était pas de garde et surprit les deux hommes qui se regardaient l'un l'autre férocement, bêtes sauvages tous les deux. Sur la figure de Hans, c'était la convoitise de tuer. Chez Denine, c'était la férocité et la colère du rat qui y attrapait. Alors elle criait « Hans, réveillez-vous » et il revenait à lui-même, surpris, honteux, mais non repentant. C'est alors que Hans devint un autre facteur dans le problème que l'imprévu avait posé à Edith Nelson. Tout d'abord, il avait été tout simplement question de la marche à suivre en ce qui concernait Denine, et c'était selon elle de le garder prisonnier jusqu'à ce qu'on pût le livrer à un tribunal capable de le juger. Mais à ce moment-là, Hans entra en jeu, et elle voyait qu'il s'agissait de sa raison et de son salut. Elle ne fut pas longtemps sans découvrir que sa propre force et que son endurance devenaient une donnée du problème. Elle commençait à succomber à la tension. Son bras gauche avait des secousses et des tiraillements involontaires. Elle laissait choir la nourriture de sa cuillère et ne pouvait se fier à son bras endolori. Elle supposait que c'était une forme de danse de Saint-Guy et se demandait avec crainte jusqu'où cela pourrait aller. Qu'arriverait-il si elle cédait, si elle était vaincue? Et la vision qu'elle avait d'un avenir possible, lorsque la cabine ne contiendrait que Denine et Hans, était une horreur de plus. Au bout du troisième jour, Denine avait commencé à parler. Sa première question avait été « Qu'est-ce que vous allez faire de moi ?» Et cette question, il la répétait chaque jour et plusieurs fois par jour. Edith répondait toujours que, assurément, il serait traité selon la loi. À ce tour, elle lui demandait chaque jour « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Ce à quoi il ne répondait jamais. De plus, la question de le jeter dans des crises de colère. Il l'enrageait et tirait sur les courroies de cuir cru qui le maintenaient. Il la menaçait de ce qu'il ferait une fois libre, une chose qui arriverait sûrement, tôt ou tard. À de pareils moments, elle armait les deux chiens de fusil et se préparait à lui tenir tête avec une mort de plomb s'il parvenait à se délier. Et, tremblante, palpitante de tension et d'émotion, elle lui faisait tourner la tête. Mais après un temps, Denine devint plus maniable. Elle put comprendre qu'il se fatiguait de rester couché immobile. Il commença à demander et à supplier d'être délié. Il fit des promesses folles. Il ne leur ferait pas de mal. Il irait lui-même à la côte et se rendrait aux officiers de la loi. Il leur donnerait sa part d'or. Il s'en irait au cœur du désert et ne rentrerait jamais dans la civilisation. Il se tuerait même si seulement on le laissait libre. Ses demandes finissaient d'ordinaire par des furies involontaires, à ce point qu'elle le croyait pris d'un accès. Mais elle secouait la tête et lui refusait la liberté pour laquelle il se mettait dans de tels accès de passion. Les semaines passèrent. Il continuait à devenir plus traitable. La fatigue semblait s'affirmer davantage. « Je suis si fatiguée, murmurait-il, roulant sa tête de droite à gauche sur l'oreiller comme un enfant chagrin. Un peu plus tard, il commença à demander sans passion la mort, implorant qu'on le tuât, demandant que Hans mît fin à sa misère pour qu'il pût enfin se reposer tranquillement. La situation devenait intolérable. Edith se sentait de plus en plus nerveuse et savait que la crise pouvait arriver à tout moment. Elle ne parvenait même pas à avoir sa part de repos, car elle était hantée par la peur que Hans ne succomba à sa manie et ne tuât Denis pendant son sommeil. Quoique janvier fût déjà arrivé, il se passerait des mois avant qu'un schooner ne fît d'aventure escale dans la baie. De plus, ils n'avaient pas fait leur plan pour hiverner dans la cabine, et les vivres commençaient à diminuer. Hans ne pouvait suppléer ce qui manquait en chassant. Ils étaient enchaînés à la cabine par la nécessité de garder leurs prisonniers. Il fallait agir, elle le savait. Elle s'efforça de considérer à nouveau le problème. Elle ne pouvait pas se débarrasser de ce que sa race lui avait légué, de la loi qui était dans son sang et qu'on lui avait inculquée. Elle savait que, quoi qu'elle fît, elle devait le faire suivant la loi. Et pendant les longues heures de garde, le fusil sur les genoux, tandis que le meurtrier s'agitait et que la tempête grondait au dehors, elle fit des recherches originales sur la sociologie et trouva d'elle-même l'évolution de la loi. Il lui vint à l'esprit que la loi n'était que le jugement et la volonté d'un groupe. Le nombre de ce groupe n'importait pas. Il y avait de petits groupes, se disait-elle dans son raisonnement, comme la Suisse, et il y en avait de grands, comme les États-Unis. De plus, le groupe pouvait être aussi petit qu'il voulait. S'il n'y avait que 10 000 personnes dans un pays, leur jugement collectif serait cependant la loi de ce pays. Alors, est-ce que 1 000 personnes ne pouvaient pas constituer un groupe, se demanda-t-elle? Et pourquoi pas 100? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 2? Sa propre conclusion lui fit peur, et elle la discuta avec Hans. D'abord, il ne comprit pas. Puis, lorsqu'il saisit, il ajouta un argument qui la convainquit. Il parla de meetings de mineurs où tous les hommes de nos localités se rassemblent, font la loi et l'exécutent. Il se peut qu'il n'y ait que 10 ou 15 hommes réunis, dit-il. Mais la volonté de la majorité devient loi pour les 10 ou 15, et qui viole cette loi est puni. Edith, enfin, vit sa route tracée. Hans était de son avis. Tous deux formaient la majorité de ce groupe spécial. La volonté du groupe était que Denis fût pendu. Dans l'exécution de cette volonté, Edith s'efforça d'observer les formes usitées. Mais le groupe était si restreint que Hans et elle devaient servir de témoins, de jurés, de juges et aussi d'exécuteurs. En due forme, elle accusa Michel Denin du meurtre de Dutchy et de Harky, et le prisonnier, couché dans son cadre, écouta le témoignage de Hans d'abord, puis celui d'Edith. Il refusa de plaider coupable ou non coupable et demeura silencieux lorsqu'elle lui demanda s'il avait quelque chose à dire pour sa défense. Elle et Hans, sans quitter leur siège, prononcèrent le verdict de culpabilité. Alors, comme juge, elle imposa la sentence. Sa voix trembla, ses paupières clignèrent, son bras gauche eut une secousse, mais elle alla jusqu'au bout. « Michel Denin, dans 3 jours, vous serez pendu par la cour jusqu'à ce que vous soyez mort. » Ce fut la sentence. L'homme lâcha involontairement un soupir de soulagement, puis rit en les défiant et dit « Je pense qu'alors le sacré cadre ne me fera plus mal au dos, et ça, c'est une consolation. » La sentence prononcée, un sentiment de soulagement parut se communiquer à tous. Il se faisait remarquer chez Denin. Toute méchanceté et toute défiance avaient disparu chez lui, et, sociable, il parlait à ses geôliers. Il montrait même des étincelles de son esprit d'antan. Il trouva une satisfaction de plus en plus grande dans la lecture de la Bible qu'Edith lui faisait. Elle lui lut le Nouveau Testament, et il s'intéressa fort à l'enfant prodigue et au voleur sur la croix. La veille du jour fixé pour l'exécution, lorsque Edith lui posa la question usitée « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Denis répondit « C'est bien simple, je pensais... » Mais elle le fit taire aussitôt, lui demanda d'attendre et s'empressa d'aller au lit de Hans. Ce n'était pas son tour de garde. Il sortit de son sommeil, se frottant les yeux et grommelant. « Allez, lui dit-elle, amenez les Gouk et l'autre indien. Michel va se confesser. Forcez-les à venir. Prenez les rifles avec vous et ramenez-les au bout du canon si c'est nécessaire. » Une demi-heure plus tard, Negouk et son oncle Adikwan furent introduits dans la chambre de mort. Ils vinrent à contre-cœur, conduits par Hans, armé de son rifle. « Negouk, dit Edith, il n'y aura pas d'ennui pour vous ni pour les vôtres. Tout ce que je vous demande, c'est de ne rien faire d'autre que d'écouter et de comprendre. » C'est ainsi que Michel Denin, condamné à mort, confessa son crime publiquement. Tandis qu'il parlait, Edith écrivait. Les Indiens écoutaient, et Hans gardait la porte afin que les témoins ne puissent s'échapper. Il n'était pas retourné au pays depuis 15 ans, expliqua Denin, et son intention avait toujours été de revenir avec beaucoup d'argent et de mettre sa mère à l'aise pour le reste de ses jours. Et comment pouvais-je le faire avec 1600 $ demanda-t-il. Ce que je cherchais à avoir, c'était tout l'or, tous les 8 000. Alors j'aurais pu retourner en conquérant. Quoi de plus facile, me suis-je dit, que de vous tuer tous, de l'annoncer à Skagé comme une tuerie commise par les Indiens et de filer en Irlande. Ainsi, je commençais à vous tuer tous. Mais, comme Harky aimait à le dire, je me suis coupé un trop gros morceau et je suis tombé en essayant de l'avaler. Voilà ma confession. J'ai fait mon devoir envers le diable et maintenant, si Dieu le veut, je ferai mon devoir envers Dieu. Negouk et Adikwan, vous avez entendu les paroles de l'homme blanc, dit Edith aux Indiens. Ces paroles sont ici, sur ce papier. Et c'est à vous de faire un signe sur ce papier, ainsi, de façon que les Blancs qui viendront plus tard sachent que vous avez entendu. Les deux Siwash mirent des croix en face de leur signature, reçurent une citation de comparaître le lendemain avec toute leur tribu, afin d'être témoins de ce qui se passerait, après quoi ils furent congédiés. Les mains de Denin furent déliées, le temps de signer le document. Alors, un silence se répandit dans la chambre. Hans s'était agité, et Edith se sentait mal à l'aise. Denin, sur le dos, regardait fixement le toit dont les jointures étaient calfeutrées de mousse. « Et maintenant, je ferai mon devoir envers Dieu, » murmura-t-il. Il tourna la tête du côté d'Edith. « Lisez-moi dans les livres, » dit-il. Puis, avec une nuance de plaisanterie, « Peut-être cela m'aidera-t-il à oublier le cadre. » Le jour de l'exécution se leva clair et froid. Le thermomètre était à 25 degrés Fahrenheit au-dessous de zéro, et un vent glacé soufflait la gelée au travers des vêtements de la chair et pénétrait les os. Pour la première fois depuis maintes semaines, Denin se mit debout. Ses muscles étaient restés si longtemps inactifs, et il était si peu entraîné à garder la position droite, qu'il pouvait à peine se tenir sur ses pieds. Il chancela de droite et de gauche, vacilla et saisit Edith de ses manillés afin de se maintenir. « Sûr que j'ai le vertige, » dit-il en riant faiblement. Un moment après, et je suis content que cela finisse. Le sacré cadre m'aurait tué, je le sais. » Lorsqu'Édith lui mit sa casquette de fourrure sur la tête et tira les revers sur les oreilles, Ré dit « Pourquoi faites-vous cela ?»«
Il fait froid à geler, » répondit-elle.
« Et dans 10 minutes, que feront au jeune Michel Denis une oreille ou deux de gelée ?» demanda-t-il. Elle s'était raidie pour l'épreuve suprême, et sa remarque fut comme un coup porté à son sang-froid. Jusqu'ici, tout avait paru un jeu de fantômes comme dans un rêve, mais la vérité brutale qu'il venait d'énoncer la choqua et lui ouvrit les yeux sur ce qui allait se passer. L'Irlandais ne manqua pas de remarquer sa détresse. « Je regrette de vous ennuyer avec mes bêtises, » dit-il avec regret. « Je plaisantais. C'est un grand jour pour Michel Denine, et il est gai comme un passant. » Il commença à siffler gaiement, puis le sifflet sonna lugubre et s'arrêta. « Je voudrais bien qu'il y ait un prêtre, » dit-il pensif. Puis il ajouta aussitôt, « Mais Michel Denine est trop vieux troupier pour regretter le luxe quand il part en campagne. » Il était si faible et déshabitué de la marche que lorsque la porte s'ouvrit et qu'il sortit, le vent le renversa presque. Édith et Hans marchaient de chaque côté et le supportaient. Pendant ce temps-là, il disait des plaisanteries et essayait de les maintenir en gaieté. Il cessa un moment, le temps de régler l'envoi de sa part d'or à sa mère, en Irlande. Ils grimpèrent un monticule et arrivèrent à une petite clairière parmi les arbres. Là, solennel, en cercle autour d'un tonneau placé debout dans la neige, se tenait des goûts qu'à Dikwan, et tous les Siwash, jusqu'aux bébés et aux chiens, venus pour voir la loi de l'homme blanc. Non loin de là, il y avait une fosse ouverte que Hans avait creusée dans la terre dégelée au feu. Denine jeta un coup d'œil connaisseur sur les préparatifs, remarqua la fosse, le tonneau, l'épaisseur de la corde et le diamètre de la branche à laquelle la corde était fixée. « Sûr, je n'aurais pu faire mieux que cela, Hans, si cela avait été pour vous. » Il rit tout haut de sa propre saillie. Mais le visage de Hans était figé par une telle terreur que rien ne l'aurait fait mouvoir si ce n'est la trompette du jugement dernier. De plus, Hans se sentait très malade. Il n'avait pas réalisé l'énorme tâche qui était l'acte de mettre une créature humaine hors du monde. Édith, elle, avait réalisé. Mais la réalisation ne rendait pas la chose plus facile. Elle doutait fort qu'elle pût se raidir assez longtemps pour aller jusqu'au bout. Elle sentait les envies de crier, d'appeler, de tomber dans la neige, de mettre sa main devant ses yeux, de faire volte-face et de s'enfuir à l'aventure, dans la forêt, n'importe où, loin de là. Ce ne fut que par un effort suprême de son âme qu'elle put se tenir droite, marcher et faire ce qu'elle avait à faire. Et au milieu de tout cela, elle était reconnaissante à Lénine de la façon dont il l'aidait. « Donnez-moi la main, » dit-il à Hans qui l'aida à monter sur le tonneau. Il se baissa, de manière qu'Edith put ajuster la corde autour de son cou. Puis il se tint droit, pendant que Hans maintenait la corde tendue par-dessus la branche. « Michel Denine, avez-vous quelque chose à dire ?» demanda Edith d'une voix claire qui trembla malgré elle. Denine remua les pieds sur le tonneau, baissa les yeux modestement comme un homme qui prononce son premier discours, et se dégagea la gorge. « Je suis heureux que ce soit fini, » dit-il. « Vous m'avez traité comme un chrétien, et je vous remercie de tout cœur pour votre montée. » Alors que Dieu vous reçoive pécheur repentant, dit-elle. « Oui, » répondit-il d'une voix profonde en réponse à la voix fluette d'Edith. « Que Dieu me reçoive, pécheur repentant. »« Adieu, Michel » cria-t-elle, et la voix semblait désespérée. Elle se jeta de tout son poids contre le tonneau, mais il ne se renversa pas. « Hans, vite, aide-moi » cria-t-elle faiblement. Elle sentait que le dernier reste de sa force s'en allait, et le tonneau résistait. Hans accourut près d'elle, et le tonneau se renversa sous les pieds de Michel Denine. Elle tourna le dos, mettant ses doigts dans ses oreilles, puis elle commença à rire durement, d'un rire aigre, métallique. Et Hans en fut effrayé comme il ne l'avait jamais été pendant toute la tragédie. Edith Nelson avait succombé. Même pendant ces deux crises d'hystérie, elle était consciente, contente d'avoir pu tenir jusqu'à ce que tout fût accompli. Elle chancela du côté des Hans. « Menez-moi à la cabine, Hans, » arriva-t-elle à articuler. « Et laissez-moi me reposer, » ajouta-t-elle simplement. « Me reposer et me reposer encore. » Elle s'en alla par la neige, entourée par le bras de Hans qui la supportait et guidait ses pas. Mais les Indiens restèrent sur place, solennels, regardant l'effet de la loi de l'homme blanc qui force un homme à danser en l'air.